Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures à la lisière du rire et de l'info, un cocktail détonnant rendu possible par un travail d'équipe millimétré. Eva Rock, Céline Dacosta, moi-même, chacun se dévoue corps et âme à ce 5-7. Eva gère les invités, cale les interviews, supervise les chroniques, moi j'écris tous les lancements, je présente. Quant à Céline, tiens, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle fait Céline?
Moi j'ai fait un cake à la farine de châtaigne.
Et une tarte tomate chèvre.
Eh oui, un travail d'équipe, vous disais-je. Heureusement, Debout les copains, c'est aussi le sérieux universitaire de l'agrégé de la bande, Fabrice d'Almeida. Enfin, d'habitude, parce que ce matin, à l'occasion de son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, Fabrice a choisi d'évoquer l'histoire du reggae. Oui. Tout va bien, Fabrice?
Je veux fumer de l'herbe de qualité.
Oula, oui, oui, Fabrice me fait signe que ça va, il redescend et il arrive.
Merci d'écouter Europe 1, nous sommes le vendredi 30 novembre. Et il est 6h, très bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 30 novembre, voici le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin,
Céline. Emmanuel Macron écarte tout recul du gouvernement alors que se profile un nouveau week-end de mobilisation des Gilets jaunes. Les Champs-Élysées resteront fermées demain à la circulation. Bientôt finis les fessées et les gifles pour les enfants. L'Assemblée a adopté cette nuit la loi contre les violences éducatives ordinaires. Et puis l'inquiétude du ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. À 4 mois du Brexit, beaucoup d'entreprises françaises ne sont pas prêtes.
Europe 1.
À la veille du 3e week-end de mobilisation des Gilets jaunes, les commerçants craignent de nouveaux blocages. Emmanuel Macron, lui, depuis Buenos Aires, où il se trouve pour le G20, a répété qu'il ne reculerait pas. Édouard Philippe reçoit aujourd'hui plusieurs porte-paroles du mouvement à Matignon. Et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a annoncé que les Champs-Élysées resteraient ouverts aux piétons demain, mais qu'il y aurait des fouilles pour éviter d'éventuels débordements. Difficile de savoir combien de Gilets jaunes feront le déplacement. Les actions s'annoncent surtout locales. Difficile de savoir aussi ce qu'ils souhaitent exactement. Exactement, leurs revendications varient. Échange capté par Frédéric Michel au péage du Muy dans le Var.
Ah non, moi je veux sa démission. Pour moi, on est salarié, on n'est pas bon, on n'arrive pas dans notre travail, on est licencié. Lui, il a été élu, on lui a laissé 18 mois pour nous montrer ce dont il était capable et il est incapable à part frapper sur les gens avec ses taxes.
Ouais, mais donc lui, il voit maintenant, le problème autrement. On sait très bien que le mec, il est élu pour 5 ans. Donc pendant 5 ans, il va appliquer ses idées en disant plus tard, ça va porter.
Mais on a les moyens de lui demander de partir.
À partir du moment où il nous a trompés, il ne respecte pas son contrat, je suis désolée.
Moi aussi, j'aimerais bien qu'il s'en aille. Je ne suis pas contre l'idée, mais ça me paraît utopique. Il vaut mieux se battre et gagner quelques points qu'on peut gagner sur tout ce qu'on a besoin. Revenir un peu sur les bases, quoi. Mais de le faire partir, il ne faut pas rêver, le mec ne va pas partir.
Si tu demandes haut, tu auras un peu. Si tu demandes un peu, tu n'auras rien du tout.
Donc, propos recueillis par Frédéric Michel pour Europe 1 hier soir. Vive tension à la mairie de Pau, où quelques gilets jaunes ont réussi à s'introduire dans le bâtiment. Ils ont interrompu brièvement le conseil municipal. François Bayrou, le maire, leur a dit qu'il était prêt à les entendre, mais pas dans cette salle, ce qui est interdit par la loi. 4 d'entre eux ont donc été reçus par le préfet venu à leur rencontre.
Notez que François Bayrou est l'invité d'Europe 1 ce matin en direct de Mourinx, matinale spéciale à 8h15. Il répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara. Il sera ensuite aux côtés de Nico Saliagas et de Jean-Michel Apathy.
En début de semaine, le maire et républicain d'Evreux, Guy Lefranc, est allé à la rencontre des gilets jaunes. Il a suggéré aux manifestants de bloquer la préfecture, des propos qu'il a ensuite regrettés, parlant de malentendus. Mais la vidéo a été diffusée sur Facebook. Elle a fait bondir Thierry Coudert, le préfet de l'Eure.
Je comprends qu'un élu puisse exprimer sa solidarité avec les personnes qui ont le droit de manifester, que ses convictions puissent l'amener à épouser leur cause. Mais de là à bloquer les services publics, très calmement, mais non moins fermement, j'ai tenu à dire que j'étais stupéfait. Et c'est encore plus ennuyeux lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos concitoyens et qu'on bloque sa propre police municipale.
Thierry Coudert, joint par Ève Roger. Les Français vont-ils révolutionner leurs pratiques éducatives? Bientôt fini la fessée. En tout cas, cette nuit à l'Assemblée, la proposition de loi contre les violences éducatives ordinaires a été adoptée à la quasi-unanimité. Seule la députée du Rassemblement National, Emmanuelle Ménard, a voté contre. Le texte doit encore être mis à l'ordre du jour du Sénat. Angela Merkel absente pour l'ouverture du sommet du G20 en Argentine. Son avion a dû atterrir d'urgence à Cologne hier soir dans l'ouest de l'Allemagne. La suite de son voyage a donc été différée.
Europe 1, il est 6h03.
À 4 mois du Brexit, les pouvoirs publics sont très inquiets.
Oui, les entreprises françaises ne sont pas prêtes. Gérald Darmanin, devant les députés, a lancé qu'il était urgent que le monde des affaires comprenne qu'un Brexit sans accord pouvait arriver. Et cela aurait des conséquences très concrètes pour les exportateurs français, comme la mise en place des droits de douane ou encore des formalités administratives très lourdes. Les douanes qui tentent de sensibiliser les entreprises, mais peu répondent présentes. C'est le constat d'Éric Meunier, directeur des douanes dans les Hauts-de-France.
Le Brexit ne se passera pas bien si les entreprises ne se sont pas préparées à ces formalités douanières, plus ou moins complexes en fonction de ce que seront les accords finalement, et ne pas avoir au dernier moment à se précipiter vers des professionnels du dédouanement ou vers l'administration des douanes, parce qu'à ce moment-là, il y aura effectivement, avant même d'avoir un engorgement sur les côtes du Pas-de-Calais, il y aura un engorgement administratif.
Éric Meunier avec Olivier Samain.
Demain, c'est le 1er décembre, on va enfin pouvoir ouvrir la première case.
Et oui, la première case du calendrier de l'Avent.
Oh, oui.
Et ce n'est pas que pour les enfants. Pour les adultes, il y en a pour tous les goûts, des produits de beauté à la version fromage. Ça doit sentir bon. Il y a aussi les cafés ou les bières. Yasmina Katou.
Chaque jour, une nouvelle variété de bière. On est loin du petit chocolat pour enfants. C'est le genre de calendrier de l'Avent qu'a reçu Olivier. À tout âge, le plaisir reste le même.
J'ai l'impression d'être un enfant tous les matins du 1er au 25. Je me lève le matin et la chose la plus importante à faire de la journée, c'est de mettre la bière du jour en question dans le frigo avant de partir au bureau. Quand je rentre après du bureau le soir, j'ai ma bière toute fraîche qui m'attend. Ça trône dans votre salon et c'est, il ne faut pas craquer. C'est très dur.
Outre la bière, il existe aussi le calendrier beauté. Chaque jour, une crème pour les mains, un gel douche ou un rouge à lèvres à découvrir. Arnaud, directeur chez Nature et Découverte, a constaté un réel engouement. Il est en rupture de stock depuis hier.
C'est une tendance qui a vraiment un peu explosé encore plus cette année que les autres années. C'est une fois et demie de plus que l'année dernière. Le best-seller reste le calendrier sur les gourmandises, le thé. Donc voilà, ce sont des calendriers qui marchent très bien chaque année.
Les grands enfants doivent débourser en moyenne entre 20 et 120 euros pour un calendrier de l'Avent sans chocolat.
Un reportage signé Yasmina Katou. Tiens Mathieu, si je vous offrais un petit bout de lune.
J'ai toujours rêvé que vous m'offriez votre lune, Céline.
3 échantillons.
Un petit bout.
Non, allez, plus sérieusement, 3 échantillons de roches lunaires prélevées lors d'une mission non habitée.
Bah écoutez, vous me tendez des perches.
Oui.
Je l'ai saisi à la volée, hein. C'est quand même mon métier.
Donc, je vais y arriver.
Oui, ce petit bout de lune qu'on peut acheter. Donc.
Bon, alors, 3 échantillons vendus aux enchères hier à New York. Modique somme à 855 000 dollars.
Ah oui, ça fait cher. Ça fait cher le bout de lune. Il faut voir.
Bon, d'abord que je gagne au loto.
Ça marche. C'était donc le journal de Céline Kallmann, une journaliste comblée professionnellement et aussi une femme comblée en amour. C'est pourquoi j'adresse ce message solennel à Nikos Aliagas. N'y pense même pas, mon petit bonhomme. Même si elle en a très envie, et au son de sa voix dans l'extrait qui suit, elle en a très envie, elle déclinera toute invitation.
Vous avez le temps d'aller au cinéma, Céline Kallmann ?
Pas vraiment.
Je vous emmènerai avec les petits, vous inquiétez pas. Avec votre mari, avec toute la famille.
Oh, invitez le mari avec ! Ça, c'est vicieux.
Europe 1.
Il est 6h06, Mathieu Noël.
À suivre, cet historique, le fact-checking par l'histoire. Et alors que le reggae fait son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Fabrice Dalméda se penche sur l'histoire de ce courant musical souvent caricaturé et pourtant si fécond. En ce grand jour pour la Jamaïque, Céline, qu'est-ce que vous avez envie de dire au peuple jamaïcain ?
Faut pas fumer de joint.
Oh là ! Non, passons.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
Oui, Céline Dacosta, j'hésite à vous donner la parole pour la météo car les nouvelles ne sont pas très bonnes.
Oui, on a encore de la pluie, c'est vrai, pour l'est du pays et le sud. Alors pour l'est de l'Alsace, Lorraine jusqu'au Massif central, mais aussi pour le sud des Pyrénées à la région PACA avec des averses soutenues dans la vallée du Rhône. Et du vent pour les autres, c'est un ciel mitigé, des nuages, quelques éclaircies tout de même, peut-être encore quelques ondées, du vent près des côtes de la Manche et éclaircies qui seront un petit peu plus nombreuses cet après-midi sur la moitié nord. Vous voyez, c'est pas si mal, c'est surtout ce week-end que ça va se gâter. Le tout sous des températures très douces encore cet après-midi, puisque la moyenne va de 12 à 15 degrés du nord au sud, avec encore un 13 degrés à Paris, jusqu'à 17 degrés pour Ajaccio.
Merci Céline. Eva Rock, je vous vois pianoter, consulter les messages de l'auditeur que vous recevez.
Exactement, parce qu'on leur a demandé de réagir au titre de Libération qui mettait cette question en une: moins d'enfants pour sauver la planète. Eh bien vous, que feriez-vous pour sauver la planète? Vous nous avez répondu sur Twitter. Par exemple, Bustef nous dit: arrêtez le plastique dans les emballages, dans les pailles et les sacs. Olivier, le plus possible de circuits courts avec les bons conseils d'Anne Le Gall qui travaille à la préparation de cette émission avec nous. Et puis Carole nous dit: je trie depuis 30 ans, j'ai quasiment arrêté la viande, je fais attention à l'eau, à l'électricité, mais sans vouloir être pessimiste dans votre bonne humeur matinale, c'est insoluble et c'est beaucoup trop tard. Mais non, il faut continuer
mais
à
y croire. Il faut y croire.
Allez, on y va.
Merci beaucoup, Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
6h09, l'heure d'accueillir ce journaliste sportif à l'éloquence rarement prise en défaut. Et même quand ça arrive, même quand les mots ne sortent pas dans le bon ordre, il a toujours une explication.
L'une des plaignantes, elle craint que certaines personnes, je cite, s'en prennent désormais à elle. S'en prennent désormais à elle. Je suis totalement à la ramasse. Là, je devance pas ce que je lis parce que je pense à ce que je dois dire après au JDS. Du coup, la phrase, je l'ai mis au mauvais endroit. Je l'ai mis... Bref, peu importe.
La prochaine fois, vous nous donnerez une notice, GG, comme ça, on comprendra ce que vous dites, ça sera plus simple. On passe au journal des sports. Vous avez les mots dans le bon ordre ?
Oui, je crois.
On va essayer. À la une, les championnes du monde sont tombées.
Les Françaises, oui, les championnes du monice de handball ont perdu pour leur entrée en lice à l'Euro qui se passe en France. Pour la première fois hier soir à Nancy, les Russes étaient les plus fortes, 26-23. Les Russes championnes olympiques en titre. La qualification, toutefois, pour le tour suivant reste possible pour les Françaises. Encore deux rencontres à disputer dans cette première phase. La gardienne Amandine Lénaud le martèle. Il faut garder espoir.
J'espère bien parce que sinon je m'en vais. Moi j'ai des grosses espérances. Je sais qu'on a fait de très très belles choses. On a fait quelques petites erreurs face à une équipe de cette expérience-là avec des joueuses comme ça, ça pardonne pas. Ce qui est sûr, c'est que la compétition va être longue et qu'il va falloir rester concentré.
Des propos recueillis par Christophe Lamar, des Bleus qui ont joué hier dans une salle nancéienne quasi comble. Prochain match dimanche 15h, France-Slovénie. Hier soir, on jouait aussi en championnat de France, messieurs de handball. Et première défaite de la saison après 11 journées pour Chambéry, 29-22 contre Montpellier. Des Savoyards qui perdent du coup la tête de la D1, ce sont les Nantais. Premier ce matin, les Nantais qui ont eux gagné 29-24 à Saint-Raphaël.
Maintenant, on va parler foot, Jérôme. Oui. Mais vous voulez nous faire part de quelques-unes de la presse locale.
Au hasard, la Provence. Les sous-doués en soirée, je vous la note si vous êtes sur europe1.fr avec nous.
Parodie
de football, aussi comique que pathétique. Tenez, une autre, au hasard, la Provence. La mascarade et le calvaire, c'est dur, hein, des titres sur l'OM.
C'est dur, en même temps, ouais, c'est 4-0. C'est dur, hein.
Des titres sur l'OM après la défaite hier soir, 4-0 à Francfort. En Ligue Europa, beaucoup de joueurs cadres absents, dont Rami, Payet, Thauvin. Mais ceux qui ont joué ont été bien peu inspirés tout de même. Deux des quatre buts inscrits l'ont été par des Marseillais contre leur camp, Luis Gustavo. Et Bounassar.
Ça fait rire, ça fait beaucoup rire Fabrice Dalméda, le cruel Fabrice Dalméda. Bonjour Fabrice.
Non, c'est la joie.
Sinon, les Rennais peuvent rêver à la qualification pour les 16e de finale. Grâce hier soir à une précieuse victoire donc des Rennais 1-0 à Jablonec en République tchèque. Si ces Bretons battent le 13 décembre les Kazakhs d'Astana chez eux, ils seront qualifiés chez eux en Bretagne. Enfin, infime espoir pour les Bordelais après un succès hier 2-0 face au Slavia Prague.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
C'est celle d'un régime alimentaire peu conventionnel pour un sportif de haut niveau. Mathieu Van Der Poel, jeune cycliste néerlandais, 23 ans. Alors, avant la compète, avant les courses, plate pâte, ça, ok, mais au jambon et au ketchup. Bon.
Au ketchup, ouais, ça, voilà, c'est comme ça qu'on
voilà,
dit chez vous.
Bah, voilà. Pourquoi vous dites comment vous ?
Au ketchup.
Au ketchup, j'ai dit comment ?
Au ketchup.
Ah, pardon, ketchup.
Bah, pourquoi pas,
ouais, après, non, mais vous avez raison. Mais le pire, c'est après son régime alimentaire. Là, c'est carrément la barquette de frites, dès la descente du vélo, avec encore la dose de ketchup et parfois saucisses et brochettes. Pas banal, mais ça n'empêche pas Mathieu Van Der Poel de compter au palmarès un titre de champion du monde.
Mais non,
d'Europe,
ah mais j'allais vous demander, je pensais que c'était un amateur, c'est un pro.
Non, c'est un pro et le vélo, ça le connaît parce que son grand-père est hyper connu, c'est Raymond Poulidor. C'est le petit-fils de Raymond Poulidor.
Quelle belle histoire du jour. Merci beaucoup. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, évidemment, si je vous dis Jamaïque, vous me dites...
La folie cannabis, la fumette.
Le reggae. À l'occasion du classement au patrimoine mondial de cette musique venue de Jamaïque et rendue mondialement connue par Bob Marley, Fabrice Dalméda revient sur l'histoire de ce courant musical.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça... On peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Le reggae de Jamaïque a été donc admis sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. L'UNESCO a souligné que cette musique avait contribué à une prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité. C'est une histoire ancienne, le reggae en Jamaïque ?
Le 6 août 1962, le jour de l'indépendance de la Jamaïque, tout ce qui va donner le reggae est là. Il y a la princesse Margaret qui représente sa sœur, la reine Elisabeth, aux festivités, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, terre d'exportation et d'émigration. Ensuite, des musiciens jouent du ska. Et le tube de l'époque, c'est Independent Jamaica. « Et lors de la cérémonie, il y a aussi des percussionnistes Rastafari ou Rastafari, me direz-vous, adeptes de cette religion d'émancipation des Noirs favorable au Négus, l'empereur d'Éthiopie. Le reggae, c'est l'esprit Rasta avec le ska au ralenti, comme en crise. Car bientôt, l'indépendance ne change pas la pauvreté en Jamaïque. La déception stimule la créativité musicale et dès 1968, la nouvelle mode reggae s'impose, notamment avec Toots and the Maytals.
Et à quel moment le reggae est-il devenu musique mondiale ?
Le décollage mondial, ça vient avec Bob Marley et ses succès à partir de 1973. Cette année-là, sa chanson « Get Up, Stand Up » montre bien la portée politique du reggae. Ah oui, levez-vous, levez-vous pour vos droits, ne cédez pas. Le reggae devient un drapeau pour tous les opprimés. Mais son succès commercial inspire aussi d'autres musiciens, en Europe, en Afrique, en Amérique. D'où la volonté de la Jamaïque, aujourd'hui, de rappeler ses origines et son ancrage dans son peuple et donc la demande maintenant satisfaite de le faire entrer dans le patrimoine immatériel de l'humanité. En somme, la subversion d'hier est devenue la culture légitime de demain.
Ouh, joli. Merci beaucoup Fabrice d'Almeida, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve lundi, juste avant 6h15.
Europe 1. Et il est 6h16, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures de bonne humeur, d'actu et d'invités qui la font. Ainsi, aujourd'hui à 6h20, nous recevons un dessinateur visiblement plus talentueux que moi. Le portrait à l'aquarelle que j'avais fait d'Eva Rock pour son anniversaire me semblait pourtant assez réussi.
Oh là là, on dirait Eddie Mitchell.
Bon non, c'est pas vrai, on reconnaissait parfaitement Eva. Bref, ce matin, on recevra plutôt Riyad Satouf, le dessinateur à succès de l'Arabe du futur, dont le quatrième tome vient de sortir à l'occasion d'un superbe événement que je vous recommande chaudement, le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. On y vient, mais d'abord Céline, oh, je le reconnais.
Ils ont joué et gagné cette semaine sur Europe 1. Il y a Hervé, Venceslas, Fabien, Didier. Ils ont tous participé à notre grand jeu de la fausse pub.
Écoutons la fausse pub diffusée hier sur Europe 1. Et juste après, Céline, promettez-moi de m'expliquer comment on peut jouer alors que moi-même, je ne peux pas jouer, ce qui est totalement contrariant.
10 milliards d'euros, c'est le coût des arrêts maladie. Sur la base d'une journée au SMIC payée 76,96 €, cela représente 851 072 000 euros. Qui, en rentrant directement dans votre poche alors que vous devriez être au lit, échappe au fisc.
C'est pour y remédier que la FPLFG, Fédération publique de lutte contre le foutage de gueule, a obtenu du gouvernement et de la sécurité sociale qu'elle taxe désormais les journées d'arrêt maladie.
Alors vous êtes malade comme ça?
Cela vous coûtera désormais 76 euros par jour. On vous fait grâce des 96 centimes.
À ce prix-là, quelque chose me dit que vous allez guérir vite.
Ah, je me sens beaucoup mieux.
À tout moment de la journée, une fausse publicité comme celle-ci peut être diffusée sur Europe 1. À cet instant T, que faut-il faire, Céline, pour jouer?
Eh bien, c'est simple, vous envoyez pub par SMS au 7 39 21 75 centimes, plus le coût du SMS, vous appelez le 39 21, c'est 50 centimes par minute. Et vous aurez, qui sait, peut-être la chance de gagner le tout dernier iPhone XS. Je vous souhaite bonne chance, une bonne journée et la santé aussi avec, c'est important, bien sûr. Il est 6h20, Mathieu Noël.
Mobilisation des gilets jaunes suite. Les Champs-Élysées seront fermées à la circulation demain. Des contrôles d'identité et des fouilles seront effectués sur les piétons qui souhaiteront s'y rendre. Annonce du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le fonctionnaire du Sénat soupçonné d'espionnage au profit de la Corée du Nord a été mis en examen pour trahison. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Enfin, de nouveaux traitements à base de valsartan rappelés par l'agence du médicament. La raison, la présence d'une substance classée comme probablement cancérogène. Cette décision pourrait provoquer des ruptures de stock pour plus d'un million de patients qui suivent ce traitement.
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 30 novembre. Et l'actu, c'est aussi jusqu'à dimanche à Montreuil, le salon du livre jeunesse, un secteur qui représente 28% du marché du livre en France, soit 86 millions d'exemplaires vendus chaque année. Parmi les auteurs présents lors de ce salon dimanche, le public pourra venir rencontrer Riyad Satouf. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour.
Depuis les années 2000, vous êtes devenu un auteur de BD incontournable. L'enfance est un de vos thèmes de prédilection, notamment à travers votre série L'Arabe du futur, dont le quatrième volume vient de sortir chez Alary Édition, et Les Cahiers d'Esther, autre BD adapté par ailleurs en dessin animé et diffusé sur Canal+. Déjà, Riyad, premièrement, est-ce que vous vous considérez comme un auteur jeunesse?
Alors, pas du tout, mais il est vrai que j'ai énormément d'enfants et de jeunes qui lisent L'Arabe du futur.
Ah,
et
aussi... Vous avez personnellement énormément d'enfants. Vous avez aussi des lecteurs.
C'est aussi
enfants.
Le cas, mais reste, laissons le sujet de côté. Oui, en fait, j'ai beaucoup d'enfants qui lisent mes livres, mais je ne destine pas forcément des... mes livres à un public en particulier.
Oui, en fait, par exemple, dans l'Arabe du futur, pour prendre le plus connu de toutes vos bandes dessinées, vous ne vous censurez jamais en disant il y a beaucoup d'enfants qui vont le lire. Évidemment, il n'y a pas que des enfants qui lisent l'Arabe du futur, il y a plein de niveaux de lecture, il y a plein de choses pour les grands. Mais vous ne vous censurez jamais en disant attention, j'ai un public aussi de jeunes. Non, vous dites tout ce que vous avez envie de dire.
Non, je ne me censure absolument jamais. Et c'est vrai que je garde aussi en mémoire mes souvenirs de lecture en tant qu'enfant et j'adorais aller voir des trucs qui ne m'étaient pas forcément destinés sans forcément que les adultes soient toujours au courant et pour m'y confronter et pour avoir l'impression d'être grand.
Oui. Lesquels, par exemple ?
Toujours plus excitant.
Il y a eu plein, beaucoup de bandes dessinées. Par exemple, je pense aux bandes dessinées de Bilal ou de Druyet, Moebius, etc. où il y avait tout un univers un peu étrange, fantasmagorique, avec aussi un peu de sexualité, etc. Et ou des gros mots, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que je pense plutôt à ça quand je fais mes livres.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui pensent encore en 2018 que la BD, c'est pas vraiment la littérature ? Parce qu'il y a encore, bon, c'est vrai que les mentalités ont pas mal évolué, le 9e art, tout ça, on le sait maintenant, mais quand même, il y a des gens pour qui encore la BD, c'est pas tout à fait la littérature. Quel est le message qu'on peut leur passer ce matin ?
Alors, c'est compliqué, j'ai l'impression qu'en effet, il n'y en a plus beaucoup quand même. Je sais que l'Arabe du futur, je l'ai pensé vraiment pour les gens qui ne lisent pas de bande dessinée, et j'ai énormément de lecteurs, je les rencontre en librairie, etc., qui viennent me voir et qui sont extrêmement fiers de me dire que c'est la première BD qu'ils ont lue ou que je leur ai fait découvrir la BD, etc., des mamies, des papis, des familles. Tu vois, il y a quelque chose qu'on m'a souvent dit, on m'a dit « Oui, mais je ne sais pas trop la BD si je dois d'abord lire le texte ou regarder le dessin. »
Oui.
Bah, toujours ce truc, comme s'il y avait quelque chose à faire en premier. Or, il faut se lancer et c'est, ça vient tout seul, puisque la bande dessinée est, est le langage universel de l'être humain. C'est un... Dans les cavernes, c'était des BD déjà que les mecs dessinaient. Tous les humains...
C'est peut-être la première BD.
Vous savez que le A... Si vous tournez le A, la lettre A, vous la tournez dans l'autre sens, ça devient une tête de taureau. Ça vient de la tête du taureau. Et c'est de Aleph, Alep, qui est la ville d'Alep, et c'est là où a été inventée l'écriture. Le début du début du début.
Alors,
voilà, toute l'écriture vient du dessin et c'est des petites BD.
Alors, le héros de l'Arabe du futur, on sait qui c'est vous. Mais qui est Esther ?
Esther, c'est une jeune fille qui est la fille d'un couple d'amis à moi et qui me raconte des histoires toutes les semaines. Et j'en fais des bandes dessinées qui paraissent dans l'Obs.
Est-ce qu'elle touche des droits d'auteur ?
Alors, c'est vraiment une des questions qu'on m'a le plus posée.
C'est vrai ?
Oui, et alors je m'étais dit, je ne vais pas en parler parce qu'elle ne sera pas au courant qu'elle touche des droits. Mais dès que je vais à un truc, on me dit, alors Esther, elle est blindée ou quoi ? Oui, elle va toucher quelque
c'est
chose.
C'est provisionné. Justement, c'est moi qui parle d'argent. J'ai envie de vous parler un peu d'argent parce que vous écrivez sur l'enfance, il y a de la nostalgie, c'est évidemment très beau. Mais comment on fait pour garder cette naïveté, ce rapport à l'enfance quand on est devenu une grosse star de l'édition ?
Et qui a droit à une exposition au centre Pompidou,
hein, comme ça, en son nom. Qui est au-delà de l'exposition au centre Pompidou. Oui. Comment à un moment on ne devient pas, comment on garde sa touche d'enfance, sa part d'enfance et on ne devient pas un businessman tout simplement qui regarde les chiffres ?
Disons que j'ai pas l'impression d'être plus passionné aujourd'hui que je ne l'étais pendant les 15 années où j'avais beaucoup moins de lecteurs. Donc j'ai pas tellement changé. Il se trouve aussi, je crois vraiment sincèrement, que j'avais déjà un ego hypertrophié quand j'avais pas de succès. Donc en fait, il n'a pas augmenté particulièrement depuis que j'en ai.
Il est resté stable.
Il est resté assez stable. Alors quand j'avais pas de succès, je passais pour quelqu'un un peu d'infect parce que
comme on dit
vulgairement, je pétais plus haut que mon cul. Mais maintenant, peut-être, j'ai l'air
plus.
Vous
pouvez me permettre.
Non, mais je sais pas. J'ai pas la. Et c'est vrai que je m'intéresse au monde dans lequel on vit parce que je suis un peu paranoïaque. Donc c'est vrai que je me dis tout le temps, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont-ils être responsables de notre apocalypse à tous, ou est-ce que c'est comme à chaque génération, on a peur des jeunes et on est persuadé que ça va être les derniers, mais voilà, dans ma génération, tout le monde avait peur de ma génération, je m'en rappelle. Enfin voilà, je sais que c'est des sujets qui m'intéressent énormément.
Des sujets que vous avez aussi traités de manière un peu plus humoristique au cinéma, on se souvient de votre premier film, César du meilleur premier film, Les Beaux Gosses. Il y a eu un deuxième film qui a un peu moins marché. Est-ce qu'il y aura un troisième film ?
Ça, c'est comme quand vous avez eu une gastro-entérite après avoir mangé des choux-fleurs. Vous ne remangez plus de choux-fleurs alors que ce n'est pas de la faute du choux-fleur. Et j'avoue que le cinéma, quand je revois les équipes de tournage, ça me fait toujours
peur. Et l'adaptation de l'Arabe du futur, vous aimeriez ?
Alors, on m'a proposé des trucs super, même à Hollywood et tout. Et,
carrément à Hollywood.
Et j'avoue que je vais attendre de finir la BD. Avant d'y penser.
Chaque chose en son temps. Merci infiniment,
merci
à tous d'avoir été avec nous ce matin. Vous serez donc en séance dédicace dimanche au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. L'exposition qui vous est consacrée est à voir jusqu'au 11 mars à la Bibliothèque publique du Centre Pompidou. Et on recommande évidemment le volume 4 de l'Arabe du futur chez Alary Éditions. Merci,
merci
beaucoup.
Merci.
Europe 1. Il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et le week-end s'annonce assez agité.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant de retrouver retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. Voici la météo, Céline. Je ne vous félicite pas. Un ciel encore couvert et pluvieux.
Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Pour l'Est et le Sud, c'est notre perturbation d'hier qui s'est décalée avec des pluies soutenues, voire orageuses, dans la vallée du Rhône, avec du vent aussi près des côtes. Et puis on a de la neige sur les reliefs des 1300 mètres. Pour le reste du pays, la partie ouest est plutôt mitigée. Des nuages, des éclaircies, encore un risque d'ondées et du vent près des côtes de la Manche.
Pas beaucoup de changements cet après-midi.
Non, si ce n'est que la pluie se sera calmée sur les Pyrénées, que le soleil sera davantage présent sur la moitié nord. Les températures sont très douces, 11 à 15 degrés du nord au sud. Elles seront encore très douces ce week-end, mais le ciel, lui, va être très perturbé. Demain, sur une grosse partie nord-ouest, en englobant l'Île-de-France, mais également les Ardennes, il y aura beaucoup de pluie, des pluies soutenues, avec beaucoup de vent également. Ces pluies vont se décaler dimanche et gagner quasiment tout le pays. Seules les Pyrénées et les côtes méditerranéennes vont rester au sec, avec un petit peu de vent également.
Merci beaucoup Céline Dacosta.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'allégresse informative portée par la bonne humeur légendaire d'Eva Rock et Céline Dacosta.
On vient à la maison,
il y a le printemps qui chante.
À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques finissent la semaine en beauté. Au programme, Édouard Philippe dans une mauvaise passe. Du nouveau chez Air France qui envisage de supprimer sa compagnie low cost June. Quant à Eva Rock, elle mettra un temps de côté les préoccupations qui sont au centre de sa vie de star, comme par exemple...
Est-ce qu'on peut boire son café dans un verre baccarat?
Pour des questions plus prosaïques mais plus concernantes pour vous, chers auditeurs, comme qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Cela fait maintenant 12 jours que l'actualité s'écrit en deux mots. Gilet jaune. Le Premier ministre reçoit des porte-paroles cet après-midi. Il a déjà échangé hier discrètement avec l'un des protestataires. Que va-t-il se passer demain? La France va-t-elle à nouveau offrir au monde des images d'émeutes en plein Paris? Le ministère de l'Intérieur change de stratégie. Les Champs-Élysées seront ouverts aux piétons, mais avec des contrôles et des fouilles. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est au G20 à Buenos Aires. Là-bas aussi, le climat social est très tendu. La capitale argentine a pris des allures de forteresse. Reportage de notre envoyé spécial dans cette édition.
Europe 1.
Comme c'est difficile pour le gouvernement d'instaurer un dialogue avec les Gilets jaunes, Édouard Philippe doit accueillir plusieurs d'entre eux à Matignon aujourd'hui à 14h. Combien de représentants? On ne sait pas. Plusieurs d'entre eux ont déjà annoncé qu'ils déclinaient l'invitation. C'est le cas de l'un des 8 porte-parole du mouvement, Julien Terrier, chef de file de la contestation à Grenoble. Il explique les raisons de son refus au micro de Rémi Pierre.
Je refuse ce rendez-vous, je ne m'y présenterai pas. C'est trop tôt. On n'a pas la légitimité pour pouvoir se présenter et parler au nom de tout le monde. Ça, c'est évident. Je ne pourrais pas représenter les revendications d'une personne retraitée. Je ne pourrais pas représenter les revendications d'une personne étudiante. Voilà, je pourrais représenter mes propres revendications. Là, aujourd'hui, on se bat pour les revendications de tout le monde. Donc, ce qu'on met en avant, c'est un référendum citoyen populaire pour que tout le monde ait son mot à dire. Maintenant, pour pouvoir engager la discussion avec le gouvernement, il faut qu'on ait une structure derrière et d'avoir des personnes légitimes qui vont pouvoir prendre la parole. Et je pense que ça se fera par le biais d'une association. Pour ma part, je pense que c'est trop tôt et ça tombe bizarrement juste avant l'acte 3 de samedi. Le dialogue va s'ouvrir, il a commencé à s'ouvrir. Il faut qu'on continue à se mobiliser, c'est très important et surtout se structurer.
Julien Terrier, porte-parole Gilets jaunes au micro Europe 1 de Rémi Pierre. Alors la suite, c'est bien sûr l'appel à manifester demain sur les Champs-Élysées. Le gouvernement n'a qu'une hantise, qu'à nouveau des images de batailles rangées sur l'avenue la plus touristique du monde fassent le tour de la planète. Pour cela, le ministère de l'Intérieur, pour empêcher cela, le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris ont décidé d'adopter une nouvelle stratégie. Écoutez Christophe Castaner.
Nous avons décidé de fermer les Champs-Élysées à la circulation, de les fermer de façon hermétique, mais d'ouvrir aux piétons qui souhaitent venir. D'abord pour soutenir les commerces, mais il y aura des contrôles d'identité systématiques. Nous fouillerons les sacs et nous serons intraitables. Et non seulement le périmètre sera protégé, mais nous aurons des forces d'interpellation sur le site. Et dès qu'il y aura des dégâts, des provocations, nous sanctionnerons, nous interpellerons et nous livrerons à la justice.
Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, hier soir sur France 3.
Je vous rappelle d'ailleurs qu'Europe 1 sera entre 7h et 9h en direct de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. La rédaction s'est délocalisée toute la semaine dans cette ville où s'exprime depuis des années le mal-être de ceux qui se sentent ignorés ou déclassés. Nikos Aliagas sera sur place avec vous à partir de 6h50.
Cette nouvelle journée de mobilisation percute la grande collecte des banques alimentaires. Chaque année, il s'agit de récupérer des denrées de première nécessité pour les plus démunis et cela se passe
passe aujourd'hui et demain partout en France. L'inquiétude, c'est que les éventuels barrages aux abords des centres commerciaux ne gênent les allées et venues des bénévoles. Alors, la Banque alimentaire du Nord lance un appel aux Gilets jaunes afin qu'ils ne perturbent pas la collecte. Reportage Lionel Gougelot.
Les 4000 mètres carrés des entrepôts de la Banque alimentaire du Nord sont prêts à recevoir les quelques 500 tonnes de produits alimentaires qui doivent être collectés ce week-end dans les supermarchés, à condition que les actions des Gilets jaunes ne bloquent pas les accès aux grandes surfaces, d'où l'appel lancé par Thierry Auvigneur, administrateur de la Banque alimentaire du Nord.
Qui pense à nous ? Qui pense à toutes les banques alimentaires de France. On en a absolument besoin, donc qu'il soit sympa, qu'il fait un filtrage, un ralentissement, pourquoi pas, mais qu'il ait la sympathie de penser aux gens qui en vraiment ont besoin. Il y a beaucoup de gens démunis, et dans les manifestants, ils savent bien de quoi on parle. Donc je pense qu'il y aura une réflexion en disant, bon, là, on ne peut pas faire ça, quoi.
Responsable logistique de l'entrepôt, Kevin côtoie tous les jours les associations caritatives bénéficiaires de ces dons alimentaires et qui s'inquiètent, elles aussi, de ces possibles perturbations dans la collecte. Alors il espère que les Gilets jaunes sauront faire preuve de discernement.
Ils ont leur raison, on ne peut pas leur enlever. C'est à eux de prendre conscience qu'en bloquant à certains moments, ils arrivent à priver une partie des personnes qui les soutiennent le plus, je pense. Mais bon, on espère que ça se passera bien.
Ce week-end, 3500 bénévoles seront mobilisés dans le Nord pour cette collecte de la Banque alimentaire et vous ne pourrez pas les manquer. Eux, ils portent un gilet orange. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
À suivre dans ce journal. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est à Buenos Aires pour le G20. Mais même à 11 000 km de la France, le président n'échappe pas aux gilets jaunes. Vous verrez. À tout de suite.
Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Partons maintenant en Argentine, où commence aujourd'hui le G20.
Oui, à Buenos Aires précisément. Emmanuel Macron pensait peut-être qu'en partant à 11 000 km de Paris, il se donnerait un peu d'air. C'est raté. D'abord, cette anecdote. À sa descente de l'avion, la première personne à qui le président français a serré la main portait un gilet jaune fluo. Léger couac protocolaire, il s'agissait d'un employé de l'aéroport. Plus sérieusement, devant la communauté française de Buenos Aires, Emmanuel Macron a redit que même s'il entendait les colères et les souffrances, il ne prendrait jamais la moindre décision de recul dans sa volonté de réformer le pays. Les inégalités, les problèmes de pouvoir d'achat, le ras-le-bol de ceux qui se sentent lésés, les ressorts de cette colère existent aussi en Argentine. Le climat social dans le pays d'accueil du G20 est tout aussi tendu qu'en France. Une grande manifestation est d'ailleurs prévue demain dans la capitale Buenos Aires. Du coup, transformé en forteresse pour accueillir les chefs d'État. Reportage de notre envoyé spécial Jean-Rémy Baudot.
Cela fait plusieurs jours que Damien regarde la police installer des barrières anti-émeutes dans les rues autour de sa boutique.
On a l'habitude des barrières en Argentine.
Pour ce bouquiniste, c'est le symbole d'un système qu'il rejette. Il espère donc que des manifestants pourront les renverser.
J'aimerais qu'ils soient violents. Je déteste ces 20 personnes qui me visitent. Ils matraquent le peuple. Je ne vais pas participer, mais s'ils étaient violents, j'en serais très heureux.
La colère de Damien, elle est à l'image de la crise qui touche l'Argentine, une crise sociale et économique qui fait craindre des débordements à l'occasion de ce G20. Pendant deux jours, la ville retient son souffle. Claudia observe le centre-ville désormais sous contrôle de la police.
C'est une forteresse, on ne peut plus voyager, plus de train, plus de métro, ils ont tout fermé.
Rue déserte, convoi officiel, plus de 20 000 policiers mobilisés. Dans ce climat, Mario fermera sa bijouterie.
C'est une question de sécurité. À chaque fois qu'il y a un G20, il y a des problèmes. Par précaution, nous fermons les magasins.
Pour limiter les tensions, les autorités ont demandé aux habitants de quitter la capitale. Les autres n'iront pas travailler. Buenos Aires, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Et de la tension, il y en aura aussi à l'intérieur du Palais des Congrès où se tient ce G20. Donald Trump a annoncé qu'il annulait l'entretien pourtant prévu avec Vladimir Poutine afin de montrer sa désapprobation de l'escalade entre la Russie et l'Ukraine. Le président américain promet aussi un échange rude avec le président chinois Xi Jinping sur fond de guerre commerciale. Quant à Emmanuel Macron, aucune rencontre bilatérale n'est prévue avec Donald Trump. Les deux hommes n'essaient plus d'apparaître comme les meilleurs amis du monde depuis la série de tweets rageurs du locataire de la Maison-Blanche à l'encontre du président français.
Pour finir, vous nous faites une petite folie, David, ce matin. Vous auriez pu, comme d'habitude, ne pas trop vous fouler et nous parler football. Vous avez préféré innover et déployer votre talent au service du handball.
Oui, Mathieu, parce que l'heure est grave. Vous le savez, se déroule en ce moment le championnat d'Europe de handball féminin. Cela se passe en France pour la première fois, mais les Bleues ont très mal commencé. Elles ont perdu 26-23 face à la Russie. Et écoutez, Olivier Krumholz, le sélectionneur de l'équipe de France de handball féminine, il reste malgré tout serein.
On savait que c'était un scénario possible. Et il va falloir continuer à travailler, serrer le jeu et puis maintenant gagner les matchs les uns derrière les autres face à des adversaires qui sont de très bons adversaires, mais peut-être quand même plus abordable que l'équipe de Russie qui aujourd'hui est plus forte que nous. Le message, oui, c'est pas de panique, il faut continuer à bosser. On sait qu'un euro, c'est dur, parce que les deux matchs à venir ne seront pas faciles. Et on sait qu'il faut aller à Nantes, mais avec au minimum 2 points. Donc il faut gagner deux prochains matchs.
Olivier Krombholz, le sélectionneur de l'équipe de France, au micro de Christophe Lamar. Vous aviez un commentaire, Céline, à propos du sélectionneur.
Pas du tout.
Alors un mot de football.
C'est dommage, on l'entendra peut-être lundi.
Un mot de football pour conclure, parce qu'ils étaient éliminés.
Non, merci, c'était le journal de David Doucan.
C'est vrai que c'était pour du beurre, puisque l'OM était déjà éliminé de la Ligue Europa de football. Mais enfin, quand même, perdre 4-0. L'OM a été battu 4-0.
Ça peut arriver à tout le monde, un mauvais jour.
Francfort.
Un jour où on marque des buts contre son camp, un jour où les sondes partent pas. Ça arrive, vous savez.
Alors notons tout de même par comparaison les victoires hier soir de Rennes et de Bordeaux.
Oui, c'est pas mal. C'est très cruel et ça finit comme ça très sèchement, c'est vraiment brutal. C'était le journal de David Doucan. David qui présente aussi le journal de 8h dans la matinale de Nico Saliegas, mais qui est désormais sur la sellette depuis ce terrible impair commis hier matin sur l'âge du célèbre présentateur de The Voice.
La dernière fois qu'une exposition était consacrée à Paris, à Toutankhamon, c'était Nico en 1967.
Vous n'étiez pas né, moi non plus.
Oui, vous m'avez surpris. Je pensais que vous étiez déjà allé pardonner.
Non,
à quelques
vrai.
Années près.
Je ne vous montre pas le chemin de la compta, David. Hein.
Non,
c'est pas grave,
quoi.
On pourra continuer à se voir en dehors. Qu'est-ce que vous faites ce week-end?
Mon week-end est privé. Je n'ai pas
l'intention un petit bowling, comme ça on se verra en dehors.
D'en faire état en public. Et Nico, ça a très bien pris cette plaisanterie. Vous êtes mauvaise.
Non, c'était drôle parce qu'on a senti que c'était pas du tout une plaisanterie.
Mais si,
vous pensiez vraiment, c'est ça qui est dégueulasse, David. On passe à la météo. Céline,
Journée
pas des très bonnes nouvelles.
Oui, on est. Alors sur la partie ouest et le centre, on aura un ciel partagé entre nuages éclaircis et ondés. Plus à l'est, là, ça se gâte, hein, de bonnes pluies. C'est la perturbation d'hier qui s'est décalée sur ce secteur. De bonnes pluies également pour le sud des Pyrénées aux Alpes. Elles seront soutenues même dans la vallée du Rhône avec du vent. Pas beaucoup de changements pour cet après-midi, à part la pluie qui va se calmer sur les Pyrénées et le soleil qui sera un petit peu plus présent de la Bretagne à la Bourgogne. Le tout sous des températures bien douces. Encore pour la saison, puisque la moyenne ira de 11 à 15 degrés au plus chaud de la journée. Ce week-end, les températures vont être très douces aussi, mais par contre, c'est la pluie qui va faire son retour. Pluie et vent tout le week-end, donc profitez aujourd'hui de cette journée plutôt calme.
Merci Céline.
Europe 1. Il est 6h42, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 où l'info et la bonne humeur vont main dans la main comme mes complices Eva Rock et Céline Dacosta.
Nous sommes deux sœurs jumelles.
Deux sœurs jumelles qui ont bien des points communs, notamment cette candeur rafraîchissante palpable chez Céline lorsqu'elle découvre le texte malicieux qu'on lui a concocté pour la présentation du jeu de la fausse pub et qu'elle lit avec la même innocence que France Gall chantant les sucettes à l'Annie sans penser à mal.
On croise les doigts pour vous et le reste également. Enfin, qu'est-ce que tu peux croiser à part les doigts?
Je vous expliquerai. À suivre, politique, économie, médias, forgez-vous votre propre avis sur l'actu grâce à celui de nos trois fantastiques. Au programme notamment aujourd'hui, un focus sur Édouard Philippe, un Premier ministre en difficulté. Comme dirait Céline, on croise les doigts pour lui.
Et le reste également. Il est 6h45, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les gilets jaunes seront reçus à 14h par le Premier ministre à Matignon. On ne sait pas encore combien de représentants répondront présents à l'invitation d'Édouard Philippe. Emmanuel Macron, depuis Buenos Aires où il participe au G20, a quant à lui réitéré un message de fermeté. Il n'y aura aucun recul de sa part, malgré les colères qui s'expriment. Le président reste déterminé à réformer le pays. Enfin, changement de stratégie de la part du ministère de l'Intérieur. Les Champs-Élysées seront demain ouverts aux piétons avec des contrôles d'identité et des fouilles systématiques. Objectif, éviter que ne se réitère les scènes de violence et de saccage de la semaine dernière.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
5h45, l'heure où le politiquement correct s'efface pour laisser la place à l'analyse sans concession de ceux qui ont le courage de leurs opinions. À l'instar de leur modèle journalistique, l'éditorialiste Céline Dacosta, qui milite activement pour une libération de la parole.
Si on peut même plus dire le mot saucisse.
Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie et Diable. Soit Mickaël Darmon a fait une couleur, soit ce n'est pas Mickaël Darmon. Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour Mathieu.
On commence avec vous et la politique. Rien ne va plus pour Édouard Philippe. La crise des gilets jaunes se poursuit. Hier, Édouard Philippe a reçu discrètement à Matignon un premier gilet jaune venu de Saône-et-Loire avant de rencontrer officiellement une délégation du mouvement cet après-midi. Pendant ce temps-là, dans la majorité, on se lâche contre Édouard Philippe ces derniers jours.
Ah oui, c'est la fête d'Édouard Philippe, très clairement. Trop rigide, trop droit dans ses bottes, bref, trop jupéiste. Alors autant vous dire qu'à Matignon, on n'y voit pas une insulte. Un député lâchait après son interview sur BFM s'il n'a rien à annoncer, qu'il reste à Matignon. C'est vrai que depuis le début de la crise, Édouard Philippe est allé 3 fois dans les médias. Trois passages et une constante, la fermeté. Même une ministre ne cachait pas son incompréhension quand il a refusé la main tendue par Laurent Berger de la CFDT. À Matignon, on assume la fermeté, mais on préfère parler de constance. Et en même temps, c'est Édouard Philippe, vous le disiez, qui reçoit les Gilets jaunes pour organiser les concertations.
Et s'en prendre comme ça au Premier ministre, c'est le signe d'une crise au sein de la Macronie ?
Alors c'est surtout le signe d'une panique dans les rangs, d'une grosse poussée de stress. Tant que tout va bien, le chef de la majorité est salué, surtout quand il était plus populaire que le chef de l'État dans l'opinion, ce qui était le cas depuis la rentrée.
On se lâchait moins là.
Ouais, forcément. Mais quand l'orage gronde, là, ça se tend. Et certains élus le font remarquer, c'est plus facile de s'en prendre à Édouard Philippe qu'au patron Emmanuel Macron. Des collègues dérivent leur mauvaise humeur sur le Premier ministre, s'agace une députée. Un autre dénonce le comportement dangereux, grave et contre-productif de ces macronistes critiques. Car après tout, la ligne, tout le monde le sait, elle n'est pas arrêtée par Matignon. Matignon, où on assume de réparer le pays, ça c'est la grande expression d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui n'a aucun problème pour porter des décisions pénibles. Souvenez-vous des fameux 80 km/h qui avaient déjà fait grincer des dents dans la majorité. Alors après tout, le Premier ministre, c'est son job d'être le paratonnerre du président, quitte à ce que la foudre vienne de son propre camp.
Merci beaucoup Aurélie Herbement pour cette analyse. On passe à l'économie avec vous Axel de Tarlet. Et cette étrange nouvelle, Air France envisage de stopper l'aventure June, sa nouvelle marque à bas coût qui n'a même pas 2 ans.
Voilà, c'est une information du Figaro. Et en fait, l'objectif de la nouvelle direction, vous savez qu'il y avait un nouveau patron, un Canadien à la tête d'Air France. Et donc, il veut mettre de l'ordre dans la ribambelle de marques du groupe Air France. Invisiblement, il a été un peu perdu. Il faut dire qu'il y a beaucoup de marques chez Air France. Vous avez voilà, la marque Hop, donc ça c'est pour les navettes France, en France et un petit peu à l'étranger. Vous avez la marque Transavia. Ça, c'est pour les vols low cost un peu partout en Europe. Vous avez la marque Air France, bien sûr. Et vous avez en plus la marque June. Alors ça, on ne sait pas très bien ce que c'est. On nous dit que c'est une compagnie hybride. C'est-à-dire que c'est ni une low cost...
Mais c'est un pas de positionnement, je pense. Hein, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est June, en fait, effectivement.
Voilà. Ça, c'est le mot, rien que le mot, il est dérivé de John. Vous
voyez, mais c'est à la fois classe et low cost.
Eh bien, écoutez, le nouveau patron, là, le Canadien, il n'a rien compris de ce que c'était que June. Donc, il veut arrêter June.
Tout simplement.
Et il dit il faut valoriser, en fait, ce qui fait la force du groupe Air France, c'est la marque Air France. Et là, je vais vous raconter une expérience personnelle. L'an dernier, je suis allé à Barcelone et j'avais le choix entre plusieurs compagnies. Et c'était la première fois que mes enfants prenaient l'avion. Et j'ai dit, bah, les enfants, j'ai réservé sur Air France. Et c'était au moment de l'arrivée de June. Et entre-temps, mon vol Air France
c'était
a été requalifié June.
Non, June.
Il a été requalifié June vers Barcelone. Et c'est vrai que mes enfants ont dit, bah alors, on devait voler sur Air France, on est sur June. Et
les j'étais pauvres petits.
Très déçu. Non, mais pour dire que la marque Air France, vous voyez, elle véhicule quelque chose que ne véhicule pas encore June. Voilà.
Mais alors, attendez. Parce que nous, là, on parle, on dit, moi, je me permets de dire que c'est pas très malin de faire June, qu'on comprend pas le positionnement. Mais si l'ancienne direction d'Air France, qui s'y connaît un peu plus que moi quand même, en aérien, avait multiplié les marques, c'est qu'il doit y avoir une raison, il y avait une stratégie derrière cette idée.
Alors, la raison, elle est cachée, elle est un peu assidieuse. L'objectif, c'est de baisser les prix. Comme les salariés Air France sont très bien payés, qu'a fait l'ancienne direction d'Air France pour pouvoir avoir des prix plus bas ? Eh bien, elle est partie d'une feuille vierge. Elle a créé de nouvelles compagnies.
Ah d'accord, c'est pas des branches d'Air France, c'est d'autres compagnies.
Voilà, on a créé une nouvelle compagnie avec de nouveaux salariés qui n'étaient pas Air France, donc qu'on a pu embaucher beaucoup moins cher. Mais résultat, on a eu cette multiplicité de sous-compagnies, ce qui fait que le client est un peu perdu aujourd'hui. Et donc, c'est bien d'avoir une nouvelle direction qui pense au client avant de penser à ses sauces internes et de valoriser cette marque Air France, parce que, je le rappelle, ça fait plus chic de prendre un vol Air France qu'un vol June.
Merci beaucoup Axel de Tarlet. Elle ne voyage que sur Singapour Airlines.
Exactement.
En business class.
Singapour.
Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ou ce week-end ?
Je vous propose surtout de remonter dans le temps grâce à 2 programmes diffusés ce week-end. On va commencer avec Arte qui nous embarque dimanche soir dans le Paris de la Belle Époque. Le Paris des soirées 1919-1939 dans les revues menées par des femmes de caractère comme Gaby Deslys, Joséphine Baker, Suzy Solidor ou encore Miss Tinguette.
Je rentre en scène. Je descends mes grands escaliers. Ah, je me sens belle. Je suis belle. Je crois que je suis belle. Bon, puisque je le crois, ça suffit.
C'est un documentaire nourri d'archives incroyables et qui, au-delà de retracer les portraits de ces femmes incroyablement modernes, évoque la société du loisir et du divertissement, les paillettes, les strass, les plumes, mais aussi les conditions de vie terribles de ces femmes dans ces revues. C'est un très beau documentaire qui se distingue notamment par sa qualité d'écriture. C'est à voir dimanche sur Arte à 22h55. Et puis dans la famille, on remonte le temps. Je vous conseille l'émission du dimanche soir sur LCP à 21h qui est présentée par notre confrère Patrick Cohen. Ça s'appelle Rembobina.
Vous avez fait dire Patrick Poivre d'Arvor.
Oui, non, maintenant. Pas du tout, non, j'ai failli dire par notre confrère Rambobina, mais c'est le nom de l'émission, Rambobina, avec le concours de l'INA, une archive télé et un débat. Et dimanche, vous allez découvrir l'émission À bout portant, animée par un ancien d'Europe 1, Michel Lancelot, face à Johnny Hallyday. Il a 31 ans, il est en pleine gloire, interview au milieu des volutes de cigarettes où il est question des femmes et il n'aime pas certaines femmes.
Dis-nous ce que c'est qu'une allumeuse.
La rumeur, c'est une fille qui te fait penser que tu vas la voir et finalement tu te fais la ceinture avec. Tu vois ? Et tu te sers d'un cran carrément avec la langue. Tout, l'équipement et tout. Hein. Ça, j'ai horreur de ça.
Interview étonnante dans laquelle Johnny Hallyday parle avec franchise de sa passion pour les voitures, les copains, de Dieu, de l'homosexualité, de ses mensonges. Regardez jusqu'au bout, les dernières minutes sont étonnantes. Et puis il y aura un débat avec Philippe Labrosse, son parolier à l'époque, qui mérite également l'attention. C'est sûr, à 21h sur LCP dimanche.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Aurélie Herbemont, Axel de Tarlet. Les trois fantastiques seront de retour lundi avant 7h moins le quart, sauf qu'évidemment lundi Céline, Aurélie ne sera pas avec nous, Michael Darmon sera de retour.
Faut espérer que ça soit aussi efficace.
Et oui, on l'espère pour lui, c'est vrai qu'Aurélie a marqué des points. Je voudrais pas semer la discorde au sein du service politique. Elle a marqué des points.
Europe 1. Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains, c'est bientôt terminé. L'heure non pas du traditionnel débrief de la matinale de Nikos Aliagas, mais d'une surprise. Car oui, chers auditeurs, ce matin, Nikos n'est pas en studio rue des Cévennes à Paris. Il est parti très loin. Alors vous me direz, il part souvent très loin. Trop loin pour Laurent Cabrol, en tout cas.
La modernité est ignorée par le ciel.
Oui, mais ce matin, il ira encore plus loin que ça, à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, d'où il présentera la matinale. On teste la ligne dans une poignée de secondes.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains, c'est fini, l'heure du passage de flambeau avec Nikos Aliagas, mais pas en studio, car aujourd'hui, notre Indiana Jones du News est sur le terrain. Au plus proche des Français, de leurs préoccupations, nous retrouvons tout de suite Nikos en direct de Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors hier, Nikos, vous n'étiez pas encore béton sur la prononciation.
À Mourinx, pour mieux comprendre les raisons du malaise social actuel, les Mourinxois et Mourinxoises...
Mourinxois.
Les Mourinxois... Et Mourinxoises.
C'est bon, vous la tenez maintenant ?
Les
Mourinxois, vous l'avez ? Les
Mourinxois, ils sont là autour de moi, les Mourinxois. Attention à ce que vous dites, ils vous saluent, mais ils sont prêts à monter dans votre studio à Paris pour vous corriger. Attention.
Ah non, je compte sur vous pour apaiser tout ça. Bonne journée, Nikos.